Jean-Antoine, il est l'heure de te lever. Jean-Antoine, il est l'heure de te lever.
Je ne crois pas qu'on soit alcoolique en France.
Chronique, là, il y a toujours une bonne bouteille sur la table, ça c'est évident.
Chaptime.
Chaptime.
L'interview du jour.
Actualité.
Biais d'humeur.
Revue de presse.
Micro couloir.
Alors, c'est compliqué à définir pour le coup.
C'est possible que les jeunes aient plus de vocabulaire que nous autres.
Ça veut rien dire.
Quelque chose d'inouï, dont on trouverait difficilement le terme.
Happy happy hour. Happy happy hour.
Et salut à tous, c'est l'Happy Chaptime aujourd'hui dans le cadre de la quinzaine des arts et on est en direct en public de la salle K du lycée Chaptal avec moi pour présenter l'émission Erin. Salut Erin.
Salut Ludo.
Alors je remplace au pied levé Léa qui n'a plus de voix, c'est d'ailleurs la première émission qu'on présente ensemble Erin.
Ne t'inquiète pas Ludo.
J'ai un peu la pression quand même d'être avec la rédactrice en chef de l'émission Chaptime.
Je suis là, t'inquiète pas.
Bon, merci. Alors, le thème de cette année, il y a des chroniqueurs des deux émissions, vous l'aurez compris, Happy Hour et Chaptime, pour parler du regard que l'on porte sur le monde.
Et de savoir comment ce dernier peut changer, c'est le thème de la quinzaine des arts.
Et pour cela, quatre chroniques vont se succéder, chroniques présentées par les animateurs donc de ces deux émissions.
Et on va parler de société, de culture, d'environnement et d'architecture.
Avec également des interviews pendant cette émission, ainsi que des morceaux joués en live par Luna et Maya qui sont à côté, que l'on remercie. Mais commençons par savoir comment changer son regard sur le monde à travers des réalisations audiovisuelles.
On va donc laisser la place à Diane et Angelo pour commencer.
Diane, tu as pris le parti de parler d'environnement, à savoir comment notre regard sur la nature et ou l'écologie peut changer par le biais d'un documentaire.
Alors oui, aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait se pencher sur deux exemples. Demain, un film réalisé par Mélanie Laurent et Cyril Dion en 2015 et une série documentaire Netflix, Tales by Light, sortie la même année, qui est issue d'une collaboration entre National Geographic et Canon, la marque spécialisée dans les produits optiques, notamment la photographie. Commençons avec la série Netflix, qui est basée sur un principe simple. Chaque épisode suit un photographe dans sa vie professionnelle et ou personnelle. Chaque photographe parcourt le monde afin de capturer des images d'animaux, de paysages, de cultures sous des angles inédits, comme par exemple la mise en avant de la culture d'Holi en Inde. Surnommée la fête des couleurs, Holi est une grande fête hindouiste qui célèbre le retour du printemps et la fertilité. Ses participants s'aspergent de pigments dont chaque couleur revêt une signification symbolique. Cette série est à mon sens digne d'intérêt car lors des 18 épisodes de 20 minutes, dispatchés en 3 saisons, nous découvrons de réelles merveilles de notre monde. Elle peut ouvrir les yeux à certaines personnes pour qui voyager reste un luxe auquel ils ne peuvent pas se permettre de participer, mais également pour les passionnés de photographie en leur donnant des idées, des possibilités et des conseils. Cette série documentaire a une approche très respectueuse de la nature. Le photographe Darren Jew, avec lequel nous nous lançons dans l'aventure de cette série, dit qu'il espère que les photos qu'il crée seront celles qui feront la différence et qui aideront les gens à apprécier et respecter l'océan, ou la nature, car c'est le seul que nous avons. Vous serez enivré d'impressionnantes créatures telles que le grizzly, les léopards ou guépards, enchanté par les baleineaux, les lionceaux, impressionné par des sports extrêmes comme l'apnée ou la slackline au-dessus des airs, et envoûté par un monastère bouddhiste ou les traditions colorées de l'Inde. Quand on regarde un épisode, on en garde des étoiles plein les yeux et de magnifiques images en tête qui nous font quand même prendre conscience, si on ne l'avait pas avant, que notre Terre est magique, abrite des merveilles, mais qu'elle en reste tout de même fragile, d'où l'intérêt de la préserver. C'est pour cela qu'on va poursuivre avec le film Demain. Alors d'abord, voici la bande-annonce.
A été publiée il n'y a pas très longtemps une information qui annonce la fin possible de notre humanité.
Climate change, destruction of the Earth's surface and population growth are leading us to a tipping point.
Il y a 3 ans, Cyril est venu me parler de cette étude. Elle disait que mon fils grandirait dans un monde où l'eau, la nourriture, le pétrole viendraient à manquer dramatiquement.
Pendant 7 ans, j'ai dirigé une ONG. J'ai essayé par tous les moyens de montrer que nous devons changer nos façons de vivre. Mais les gens ne veulent plus qu'on leur dise que les choses vont mal. Tout va déjà trop mal. Alors nous avons décidé de tenter quelque chose de nouveau.
On est parti aux quatre coins de la planète pour trouver les femmes et les hommes qui proposent des solutions à tous ces problèmes.
We didn't start with shall we save the planet because that was too grand. We just start with where we are.
Partout, des hommes et des femmes inventent un autre monde qui respecte la nature et les humains. d'autres façons de faire de l'agriculture, de l'économie, d'autres formes d'éducation, de démocratie.
Faisons tout à la main sur un tout petit territoire. Tu peux produire autant qu'avec un tracteur sur un territoire 10 fois plus grand.
San Francisco has an 80% landfill diversion rate. Everything is reduced, reused, recycled or composted.
Ces personnes écrivent une nouvelle histoire. Elles nous disent qu'il n'est pas trop tard, mais qu'il faut nous bouger. Maintenant.
Now we vote, we govern.
On voulait mettre toutes ces solutions bout à bout, comme un puzzle, pour tenter de raconter une nouvelle histoire et montrer à quoi notre monde pourrait ressembler. Demain.
In Totnes, we have a £21 note. Kind of...
21.
Because you can. Why not?
Alors, ce film documentaire en salle depuis décembre 2015 a été vu par plus d'un million de spectateurs en France, visionné dans 27 pays différents, et s'est vu attribuer le César du meilleur documentaire en 2016. Mélanie Laurent et Cyril Dion nous embarquent à bord de leur van à la conquête des solutions de demain pour répondre aux problèmes d'aujourd'hui. C'est avec l'espérance et l'enthousiasme qui guident leurs pas tout au long du périple qu'ils partent rencontrer des personnes dont on parle très peu, mais qui existent, ceux qui participent à soigner la planète, des optimistes en tout genre et de tous bords, à qui les obstacles du monde actuel ne font pas peur. On part à la rencontre de professionnels tels que l'économiste Bernard Liater, le biologiste Anthony Barnowski, d'amateurs comme Charles et Perrine Hervé-Gruyère, mais qui sont... tous des amoureux de la nature pour qui l'écologie, le respect d'autrui et le respect de l'environnement ne sont pas un luxe. Articulés autour de 5 thématiques qui sont l'agriculture, la production d'énergie, l'économie, l'éducation et la démocratie, du Danemark aux États-Unis, d'Inde au Royaume-Uni, on découvre une autre façon d'appréhender les crises écologiques, sociales et économiques de notre mère planète. Empli d'espoir, ce documentaire aux allures de road movie nous encourage à nous poser les bonnes questions, à nous engager et à devenir acteurs et non plus spectateurs de notre vie. Pour aller encore plus loin, vous pouvez vous rendre sur leur site demain, ce qui vous permettra d'avoir accès à beaucoup d'informations afin de répondre à vos curiosités, vos interrogations. Vous voulez avoir un impact positif sur la planète ? 5 actions individuelles vous sont soumises sur le site. Manger bio et moins de viande. On ne le répétera jamais assez, si la nature n'est pas votre motivation première, la santé devrait être source d'enthousiasme à cette idée d'adopter, une alimentation saine. Mais si on peut combiner santé et écologie, que demande le peuple ? Deuxième conseil, fournissez-vous en énergie renouvelable. En plus de vous rendre moins dépendant des fluctuations du prix des énergies fossiles et donc épuisables, la planète vous en remerciera. Habits, vaisselle, décoration, objets d'agrément... Voilà que ces objets du quotidien nous en font venir à la troisième astuce, qui est de se fournir localement. Vous ferez circuler l'argent près de chez vous et en réduirez votre impact environnemental. Mais pour ceux déjà adeptes de ces démarches et qui agissent déjà à leur échelle, vous trouverez un forum pour échanger vos idées, les partager et en faire profiter tout le monde.
Merci beaucoup Diane, merci pour cette belle chronique. Tu connaissais cette série et ce film, Erin ?
Alors là, non. Pas du tout, je ne connaissais pas du tout. Et...
Moi non plus, ça me donne envie d'aller jeter un coup d'œil. Angelo, pareil ?
Pareil, oui.
Diane a placé la barre, Angelo, attention à toi.
Ça va être compliqué, là.
Ça va être compliqué. On reste sur le même thème, comment changer notre regard sur le monde par le biais d'un film ou d'un documentaire. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu as choisi ?
Ben c'est ça, la question c'était quel film, documentaire ou série a changé notre regard sur le monde ? Quand on m'a donné le sujet de l'émission d'aujourd'hui, je me suis dit, ok, ça va le faire. Et puis j'ai commencé à fouiller dans ma vidéothèque mentale. Très vite, trop d'œuvres potentielles ont fini par me faire craquer. J'arrivais pas à choisir, c'était la cérémonie des Oscars dans ma tête. Al Pacino, De Niro, Tarantino. Alors pris de panique, j'ai demandé autour de moi. Ludo m'a expliqué que pour lui, c'était incontestablement Les Visiteurs en Amérique. Une satire sur la corruption généralisée du pouvoir politique, un film sur le déclin d'un monde et sur la nécessaire remise en question de la haine comme ciment de la société. Je me suis d'abord dit que j'étais passé à côté du message, certainement sous le choc de l'humour si fin de ce chef-d'œuvre qui marque une nouvelle fois le succès d'une association franco-américaine. On n'avait d'ailleurs pas vu si franche réussite depuis le débarquement en Normandie. Et puis finalement, je me suis rendu compte que Ludo avait tout simplement confondu avec « Il était une fois en Amérique », le dernier chef-d'œuvre de Sergio Leone sorti en 1984. Bref, après 3 visionnages des Visiteurs en Amérique, pour essayer de comprendre le sens caché, j'avais perdu trop de temps, trop de neurones, et je sentais bien que j'étais en train de perdre l'esprit de Noël. Je devais réagir et m'en remettre à moi-même, il fallait avancer sur cette chronique. Soudain j'ai trouvé. Le film, le film qui a changé inévitablement notre regard sur le monde, ce fut le tout premier film réalisé en 1895. Du moins, à condition de considérer que l'histoire du cinéma commence avec l'invention du cinématographe par les frères Lumière. Ce très court métrage de 45 secondes seulement était un coup d'essai, il est rentré dans l'histoire. Quoi de plus logique pour les frères Lumière de poster leur caméra devant les portes de leur usine? Ce sont donc leurs ouvriers qui font les premiers pas du cinéma dans une scène de la vie courante. Les employés endimanchés déambulent fiers à la lumière du jour. 120 ans plus tard, nul doute que les ouvriers des usines Poulain, de la SNCF, de l'U Mondelez, les employés de Radio France, les pompiers et services hospitaliers des urgences, les dockers du port du Havre, doivent regretter cette époque où tout semblait si coloré malgré le noir et blanc de cette première réalisation. Des jaloux ces Français moyens de toute façon, des privilégiés aux retraites dorées quand les grands patrons se contentent d'un modeste chapeau pour leur retraite. Les frères Lumière ont mis en valeur, les sans-noms, ceux qui œuvrent sans jamais être vus. Pourtant, nul doute que cette scène ait été orchestrée et que le premier documentaire n'en était pas un. Mais oui, et si c'était une mise en scène et que les frères Lumière s'étaient moqués de nous, cela voudrait dire que dès le départ, nous étions entrés dans une ère de possible manipulation par l'image. En effet, on ne sait rien des revendications des ouvriers de l'époque, mais il est certain que les hommes n'allaient pas au travail dans leurs plus beaux costumes et les femmes dans leurs plus belles robes bouffantes, comme nous le montre ce premier film. Aujourd'hui, on connaît les revendications des manifestants, nos télés sont en couleur, mais le gilet jaune a remplacé les belles tenues de l'époque des Lumières. On peut pas tout avoir. Quand le théâtre social est à la morosité, il est parfois nécessaire de revenir au noir et blanc. Et certains le font avec talent. En effet, le 31 mai 1995, 100 ans après la sortie d'Usine des Lumières, La Haine de Mathieu Kassovitch sort en salle. Un choc, une claque, pour tous ceux qui ne connaissent pas la réalité quotidienne des banlieues. Autant dire tout le monde à l'époque, hormis ceux qui y vivent. Dans La Haine, le réalisateur nous montre lui aussi les anonymes. Des jeunes de banlieue condamnés à se taire par le pouvoir politique et privés de leurs droits par un système défaillant. Mathieu Kassovitch le dira lui-même, ce ne sont pas les policiers qui sont condamnables, mais le système policier. Tout au long de l'année 2019, les syndicats de police ont dénoncé le mépris du ministère de l'Intérieur à leur égard. Donc, le drame de cette histoire, c'est que presque 20 ans après, l'important n'est toujours pas la chute, mais l'atterrissage. En effet, rien n'a changé. Ou presque. Ce ne sont plus seulement les jeunes des banlieues que l'on prie de se taire, mais toute la jeunesse de notre pays. Vendredi 8 novembre 2019, Anas, 22 ans, s'est immolé devant le Crous de Lyon pour interpeller sur la précarité des étudiants. On nous parle chaque jour de la violence des jeunes, mais jamais de la violence faite aux jeunes. Ici, les adultes souvent irresponsables qui ont déjà trop souillé une planète qui ne leur a jamais appartenu. Quand on devra faire l'état des lieux, on pourra faire une croix sur la caution. Là-bas, les adultes souvent corrompus qui s'engagent en politique, avides de pouvoir, plutôt que guidés par des idéaux respectables. Le projet politique, social et solidaire est-il mort en même temps que Jean Jaurès en 1914? L'abstention a atteint 34% des jeunes de 18 à 25 ans au présidentiel de 2017. L'école, la misère et l'écologie sont souvent délaissés par nos représentants politiques qui excellent en revanche quand il s'agit de parler de sécurité, de menaces terroristes et d'identité. Dangereux, inaudible et décevant. Nous n'avons plus de leçons à donner aux générations futures. Le temps est venu de les écouter. La première grève scolaire pour le climat a été lancée par Greta Thunberg devant le Parlement suédois le 20 août 2018. Le 15 mars de cette année, au Collet de Dèze, à Florac, à Saint-Chély-d'Apcher et à Mende, des jeunes, lycéens pour la plupart, ont marché pour appeler à une prise de conscience concernant le réchauffement climatique. Les jeunes lausériens se mobilisaient encore mardi dernier pour le climat et contre les inégalités sociales en appelant à manifester. Cette année, à New York, avait lieu le sommet sur le climat organisé par l'ONU. Seulement 60 chefs d'État sur 136 ont répondu présents. Mais ne vous inquiétez pas, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Angelo d'avoir presque parlé des visiteurs aux États-Unis. Ouais. Mais bon,
c'est ça, c'était pour une autre chronique.
Super, merci. On va passer à quelque chose d'un peu plus sérieux avec de nouvelles chroniques là parce que Diane et Angelo, je vous sens un peu borderline là. Erin, on passe à quel thème maintenant ?
Là, on passe à la vision qu'on a sur le monde avec Kenna et Joss.
Voilà, c'est certains événements historiques qui ont changé la face du monde et qui peuvent changer par là même notre vision du monde. C'est à vous, les gars.
Bon, Kenna, qu'allons-nous dire sur le thème de l'émission ?
Bah, je sais pas, c'est nul.
Mais de quoi on va parler, je veux dire ?
Ah, bah, je sais pas, on pourrait parler de Woodstock.
Mais c'est quoi Woodstock ?
Bah, en fait, Woodstock, c'est un festival états-unien qui a eu lieu à Bethel en 1969. Genre, c'était trop cool, il y avait de la drogue, de l'amour et tout, c'était trop stylé.
Ouais, 1969, c'est pas pendant la guerre du Vietnam ?
Bah, justement, en fait, ça a eu lieu un peu pour dénoncer, tu sais, l'horreur de la guerre du Vietnam.
Non, mais comment est-ce que des hippies ou LSD peuvent dénoncer la guerre ?
Bah, il y a plein d'artistes qui sont montés sur scène, qui ont dénoncé des trucs à travers la musique et tout.
Attends. Je suis sur Wikipédia là. Apparemment, c'était juste un truc pour s'acheter un studio d'enregistrement. C'est hyper anticapitaliste, ça, dis donc.
Ah, mais quoi ? Mais attends, mais c'est débile. C'est genre comme si une boutique de mode créait un groupe de rock, genre les Sex Pistols. C'est irréel.
Attends. En plus, ça a créé le plus gros embouteillage du monde. Mais c'est écolo, ça, en plus. C'est génial. Et il y a eu des morts, genre 7. Il y en a eu une par overdose, un autre qui s'est fait écraser par un tracteur et un autre par une appendicite. Genre, le gars, il voulait continuer à pogoter aisément et. Et ben en plus, il avait la boule au ventre sans avoir le stress et il trouvait une manière radicale de l'enlever. Hein.
Ouais, mais bon, ça a servi pour la bonne cause quand même. Au moins, il y a eu deux naissances. Sérieux, c'est trop classe.
Et les quatre fausses couches, ça servait à quelque chose, ça ? Perso, j'aurais pas aimé.
Ouais, mais attends, vois le bon côté des choses. Au moins, le mec, il a pu payer son studio.
Non, mais que dalle, il a dû revendre tous les droits à la Warner. S'il avait trop de dettes.
Mais sérieux ? Mais c'est une méga mascarade, c'est une putain d'arnaque.
Mais totalement, en plus c'est hyper dangereux, il y a des gens ils voulaient continuer à jouer sur scène alors qu'ils auraient pu se faire électrocuter parce que le matos il était pas étanche et il pleuvait des cordes. Mais c'est hyper dangereux.
Mais putain, je te déteste à cause de toi, ma vision de Woodstock elle s'est carrément dégradée.
Comme quoi la manière du projet fédérateur, je viens de changer ton regard sur le monde.
Putain, non mais je suis vraiment dégoûté.
Non mais c'est pas grave, hein, t'en fais pas, moi j'en suis que plus heureux.
Merci à vous. Merci Kenna, merci Joss. Alors Léa n'étant pas là, on a embauché au dernier moment Lucie.
On ne parle pas d'embauche dans ce cas-là.
Pourquoi Irine ?
Parce que Lucie c'est une stagiaire, elle n'est pas payée.
Ah ouais, c'est pas faux.
D'ailleurs, c'est limite. Hein. J'espère que Lucie, c'est elle qui a demandé à venir.
Bon, on va écouter la chronique de Lucie et après on aura droit à une pause musicale jouée en live par Maya et Luna et s'en suivra ensuite les interviews. À toi Lucie.
Ok, alors... Donc moi, j'ai pas connu la guerre du Vietnam, encore moins la Première Guerre mondiale, mais j'ai connu plus dramatique, l'élection présidentielle de Donald Trump. Avant son mandat, je le connaissais pas, comme la plupart d'entre nous, je pense. Pourtant, il est devenu aujourd'hui un des hommes politiques les plus connus de notre génération, pas pour son intelligence ou son charisme, loin de là, mais plutôt pour sa connerie. La question que tout le monde se pose, c'est comment une personne pareille a pu devenir président des États-Unis d'Amérique ? Non mais sérieusement, vous vous rendez compte que l'un des pays les plus puissants de ce monde est dirigé par un homme qui attrape les meufs par la ch... Avant de se lancer dans la politique, comme le dit Donald Trump, il commença avec rien. Rien, excepté $1 million prêté par son père. Franchement, je pense que l'on aimerait tous commencer notre vie avec 1 million. Ensuite, il fait de la télé-réalité. Je vous épargne les détails. Puis un jour, Donald s'est dit « Pourquoi pas devenir président des États-Unis ?» Sa campagne commence donc par une série de tweets, tous plus intelligents les uns que les autres, comme celui qui dit que les Chinois ont inventé le réchauffement climatique pour contrôler le monde. Pour continuer dans sa lancée asiatique, Donald décide de s'attaquer à la Corée du Nord, le pays le moins flippant du monde, et plus particulièrement au petit gros, comme il l'appelle, Kim Jong-un. Au final, nous avons échappé à une guerre mondiale parce qu'ils se sont serrés la main. Bon, plus sérieusement, faudrait peut-être prendre ça un peu plus au sérieux, parce qu'on en rigole, mais beaucoup payent les prix de ces conneries, et nous aussi. Make America Great Again, comme il dit, c'est d'abord la montée du racisme, du sexisme, de l'homophobie entre autres. Donald ne s'interdit pas de dire ce qu'il pense, haut et fort, que ce soit de se moquer d'un handicapé, d'insulter les femmes, de crier sur tous les toits que les Mexicains sont des violeurs, ou encore que les personnes transgenres n'ont pas leur place dans l'armée américaine. Malheureusement, d'autres dirigeants politiques le suivent, et si on ne fait rien, de plus en plus de pays, dont la France, pourraient être amenés à suivre le même chemin. Merci.
Merci Lucie. Il a aussi dit que Shaptime était son émission préférée dans un de ses derniers tweets. Ouais. Maya, Luna, c'est à vous.
Thank you. partir. Je ne veux pas me découvrir des failles, des failles, des failles, des failles. Je vois mon corps partout. Je le compose surtout. Et tu vas pas me croire. J'ai fait le même cauchemar. Je ne veux pas sortir. Je ne veux pas me découvrir des failles, des failles, des failles, des failles, des failles. Et je sais pas danser, je sais pas m'oublier. Et je sais pas danser, je sais pas m'oublier. Je ne veux pas sortir.
Merci beaucoup, Maya, on va te laisser nous rejoindre également. Pour passer à cette partie interview, c'est Angèle Baril qui nous a rejoint, professeur d'anglais, qui a participé à cette quinzaine des arts. Bonjour.
Bonjour.
Et donc Maya, tu as aussi participé en proposant une fripe, c'est ça, une friperie ?
Oui, enfin, on était plusieurs, plein.
Mais c'est toi qu'on est avec nous, donc on va parler avec toi de ça. La quinzaine des arts qui a changé de date, Angèle.
Oui, bon, alors moi, Monsieur Guillaume m'a appris tout à l'heure hein, que je devais dire quelques mots sur la semaine des arts. Et je vais tout commencer en disant que c'est très très difficile pour moi de parler en français devant un public. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que dans cette émission, il y avait quand même pas mal d'anglais.
Hein,
j'ai bien écouté. Mmh. Et donc, ce qui est dur pour moi, c'est de résumer la semaine, la semaine des arts en quelques mots. Bon, si je le résume en un mot, j'ai trouvé foisonnement. En deux mots, homemade. Oui, c'est de l'anglais, pardon. Alors, si je le traduis en français, ça ferait fait par les élèves, notamment les référents culturels élèves du lycée Chaptal. Je sais pas si vous connaissez les 5 WH. Who, where, what, when, why, when. Donc, on a fait le who, le qui. Donc ça, c'était les référents culturels du lycée Chaptal. La semaine des arts, on peut la résumer avec un when, quand. Donc ça, là, c'était la semaine avant les vacances de Noël. L'année dernière, c'était les deux dernières semaines, janvier, février. En fait, ça change souvent. Et puis, en fait, c'est pas vraiment une semaine parce qu'on a commencé jeudi dernier et par la soirée d'ouverture qui était extraordinaire d'ailleurs, avec des concerts, des défilés, du théâtre. Where? Où? Eh ben, ça se passe au lycée, ça se passe à la chapelle, ça se passe au CDI, ça se passe dans les couloirs, ça se passe dans les salles de cours, ça se passe un petit peu partout. What? Ah, le what? Quoi? Alors, le what? Alors, le what, ça commence par trois films qui ont été décidés par les élèves, les référents culturels, qui sont projetés à l'internat. Ça, les what, c'est les attentats poétiques en classe. D'ailleurs, il y en a eu un super hier. Le what, c'est l'exposition des élèves en art plastique, donc partout dans le lycée. Le what, c'est les exposés, les vidéos faites en cours. Et même, il y a des vidéos qui ont été exportées vers le Wyoming, vers nos correspondants américains. Le what, c'est la friperie, mais Maya vous en parlera mieux que moi. Le what, c'est le radio en live, qui est ici. Le what, c'est les escape games par les terminales S. Et j'en oublie. Enfin, et aussi le what, c'est toute la com qui a été faite, évidemment, par les élèves. D'ailleurs, c'est même Maya qui a fait la magnifique affiche de la Semaine des Arts. Le why, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? C'est ça qui serait important de savoir. En fait, ce qu'on a vraiment envie, c'est que les élèves deviennent des acteurs, des actrices. Voilà. C'est de changer de regard sur notre lycée, mais changer de regard aussi sur notre monde, sur ce qu'on vit, sur voilà. C'est aussi fédérer nos élans pour aller dans une direction commune peut-être. Et puis surtout, c'est de révéler les talents parfois cachés de nos lycéens, lycéennes, et c'est de créer pour avancer. En bref, la quinzaine des arts, la semaine des arts, c'est l'art que nous pourrons c'est par la création qu'on pourra peut-être changer nos pratiques, nos façons de voir le monde. Et je voulais finir en disant que bravo à tous les référents culturels, bravo à tous ceux qui ont participé à cette semaine, et bravo à tous nos artistes. Merci.
Ben merci à toi. C'est parfait. On n'a pas besoin de poser plus de questions. Tu te sens acteur, actrice de cette quinzaine des arts, Maya?
Bah ouais, plutôt. Je suis un peu partout. Bah, je suis référent culture et éco-déléguée. Et je suis artiste aussi, donc je suis un peu partout. Mais je trouve que c'est important que tout le monde soit acteur de ça et que tout le monde se sente concerné, que ce soit un moment où le lycée se transforme en musée et où tout le monde est au courant que c'est la semaine des arts et que c'est trop cool.
Est-ce que c'est toi qui as milité pour que soient projetés Les Visiteurs en Amérique sur les 3 films projetés?
Non,
ce n'est pas toi. Non, n'en déplaise d'Angelo. Angelo, ce film ne marchera plus jamais. C'est pas toi non plus. Parle-nous de cette friperie. Quel est l'objectif de mettre en place une friperie ici au sein du lycée?
À la base, on avait eu l'idée avec le mouvement Youth for Climate, et après, ça a été repris par les comités développement durable, action citoyenne. Et du coup, l'idée, c'était de sensibiliser tous les lycéens au fait que l'industrie de la mode, c'est quand même une industrie extrêmement polluante et que qu'il y a plein de gens qui sont entre guillemets accro au shopping et que du coup il y a d'autres manières de consommer qui sont envisageables, et du coup on voulait faire une fripe qui est entièrement gratuite et avec juste des habits qu'on a récupérés, et donc l'idée c'est juste d'échanger, de prendre des habits, d'en déposer, et voilà.
Pendant combien de temps on prépare une semaine des arts?
Toute l'année.
Non,
mais là, on n'a pas eu beaucoup de temps puisque la date a été rapprochée. Mais on prépare. Chacun prépare sa partie des choses, et au référent culture, on met un peu tout en commun. Et il y a plein de réunions et c'est quand même vachement de boulot et c'est trop cool après de voir le rendu que ça fait.
Ce sont les référents culturels qui choisissent le thème chaque année?
Non.
C'est Angèle? Non.
Non.
Non plus.
En fait, on est 3-4 professeurs référents culturels. Et du coup, on choisit ça au mois de juin. Parce que c'est généralement au mois de juin qu'on prépare tout ce qui se passe après. Et donc, c'est au mois de juin où on fait les dossiers, où on fait toute la paperasserie pour pouvoir avoir le droit de faire tout ça, etc. Donc, c'est à ce moment-là qu'on décide du thème.
C'est un événement qui est bien ancré dans le lycée. Il y a beaucoup d'événements comme ça qui s'échelonnent tout au long de l'année.
Il y a quelques années, on avait la semaine des arts, on avait la semaine des langues, la semaine de la poésie, la semaine des maths, etc. Pendant longtemps, on a essayé de refédérer ça en quinzaine des arts. Et puis là, il y a une tendance, un retour. Donc il y a certains professeurs qui préfèrent qu'il y ait plusieurs semaines distinctes. Donc on va réessayer cette année de faire différentes semaines. Il y a eu la semaine de la science début octobre. Là, il y a la semaine des arts. Et puis, il y aura sûrement une semaine des langues au mois de mars, je crois. Voilà.
Erine?
Madame, est-ce que vous vous sentez vraiment impliquée dans cette semaine? Est-ce que vous organisez des choses pour vos classes? Est-ce que les professeurs, en soi, sont impliqués dans cette semaine?
Alors, je ne pourrais pas parler au nom de toute l'équipe des professeurs, mais pour ma part ou pour certains, oui, moi je me sens vraiment impliquée en fait. Par exemple, ça n'a rien à voir avec une semaine normale pour moi. Ce matin, on a commencé, j'étais avec les terminales L en spécialité anglais, on a fait du théâtre en anglais à la chapelle. C'était extraordinaire, super. Ensuite, à 9h, on est allé faire la visite des œuvres d'art plastique, donc ça n'a rien à voir. Ensuite, à 10h, j'avais les P2 qui m'ont euh, qui m'ont fait des super exposés sur les documentaires sur l'environnement, soit sur des œuvres de Cli-Fi, c'est-à-dire la climate fiction, donc la fiction sur le climat. Et puis à 11h, par exemple, à 11h avec les secondes, on a travaillé sur une campagne de sensibilisation du WWF. Donc voilà, donc ça, non, ça n'a rien à voir. J'ai eu une demi-heure pour manger et maintenant je suis là. Donc, non, ça n'a rien à voir.
Est-ce que vous pensez toutes les deux que l'architecture peut changer notre regard sur le monde ? Mais on va le savoir tout de suite avec les chroniques qui vont arriver. Merci à vous deux d'être venus quelques instants au micro. On va enchaîner avec Octave et Alexandre qui vont nous parler d'architecture et Inès qui va suivre cette chronique. Et après, on refera une pause musicale avec Maya qui pourra s'exprimer en chantant. Ok, Alexandre, Octave, c'est à vous.
Lozère, paumé, ado, temps libre. Mais que peut-on faire de nos après-midi en Lozère ?
Du curling ?
Non, pas exactement.
De l'aquaponie ?
Non plus.
Du surf ?
Toujours pas, mais tu commences à me saouler, donc boucle là. Bon, avant de vraiment vous dire comment on s'occupe, on va rattacher notre chronique au thème « Changer de regard sur le monde ». Pour cela, un peu d'histoire. Les premiers qui ont changé de regard sur le monde, ça a été les hippies. Jocelyn et Kenan nous l'ont déjà présenté, l'une des plus grosses manifestations hippies a été le festival de Woodstock, qui paradoxalement a donné lieu au plus gros bouchon des années 60.
Bah bravo les hippies.
Ouais, et ça nous amène à nous intéresser à une branche spécifique du mouvement hippie. La collapsologie, si vous voulez, c'est une manière de penser, d'agir pour se préparer à la fin du monde, rien que ça. Dans le cas où la guerre nucléaire commence demain, le collapsologue, il va s'enterrer tranquille dans son bunker et puis voilà, rien de nouveau. Le collapsologue, il réfléchit pas comme nous. Lui, il demande, dans le cas où je suis le seul humain sur Terre demain, comment je survis ? Justement, en tant qu'ado un peu con, on s'est posé la même question et on est arrivé à la conclusion que le meilleur moyen d'apprendre à survivre, c'est d'essayer. Donc pour répondre à notre question de départ, que fait-on de nos après-midi ? On s'entraîne à appréhender les technologies passées pour savoir utiliser des matériaux bruts qui augmentent nos chances de survie en cas de survie post-apocalyptique.
Octave, je pense que tu peux arrêter de mytho. En fait, on fait des cabanes remake. Y a rien de rapport ni avec la collapsologie, ni avec les hippies.
Ben oui, c'est vrai ça. Mais pourquoi j'ai essayé de justifier qu'on fait des cabanes ?
C'est rien, c'est juste un syndrome typique de l'adulte qui veut justifier tous les actes qu'il fait pour s'amuser, alors que c'est objectivement débile.
T'as raison. D'ailleurs, maintenant, je le dis haut et fort, je fais des cabanes pour le plaisir et je vous en...
Demande pas plus. C'est ce que tu voulais dire, non ? Bref, dans notre temps libre, on fait des cabanes et on est devenu assez bon.
En effet, et puisqu'on aime ça, on va vous les décrire. D'ailleurs, comment allait ta cabane, Alex ?
Avec un groupe d'amis, on a décidé de faire une cabane à étages. À l'aide de 4 arbres, qui forment un carré, on a commencé par créer une base. On a utilisé de la pierre pour former le bas du mur et le périmètre de la cabane. Ensuite, on a placé des branches de bois épaisses à la verticale pour former un mur complet. Pour créer l'étage, on a utilisé un peu de ficelle et de branches déjà coupées pour placer les branches à plat. Pour monter et descendre, on a créé une mini-échelle en bois. Et pour monter les affaires ou à manger, on a créé un système de poulies à l'aide d'une vieille roue trouvée sur place. À l'extérieur, il y a des bancs autour d'un feu bien sécurisé. On a créé un petit abri pour stocker le bois, au sec, et de l'autre côté, un récupérateur d'eau. Et toi, cher ami, qu'as-tu fait de beau ?
Perso, on a fait une cabane composée essentiellement de pierres. On a monté 4 murs en pierre sèche, et par-dessus, on a créé une armature de bois, puis recouvert le tout de mousse. La mousse, c'est pas très étanche, mais ça a le mérite de protéger des petites pluies. Tout comme toi, Alex, on a un système de poulies. Pas pour porter des trucs à l'étage, car notre cabane n'en a pas, mais pour porter des matières premières telles que la mousse ou de l'argile de la falaise qui se trouve à proximité de notre cabane. Ensuite, on a fait 2 feux, sécurisés évidemment, un dehors pour faire griller des aliments, un dans les murs même de notre cabane pour chauffer notre cabane. Je rappelle que les murs sont en pierre. Enfin, pour alimenter ces feux, on a fait une réserve de bois. Bref, une cabane, c'est une cabane, mais on a chacun fait à notre sauce. Mais il nous reste encore beaucoup de projets. D'ailleurs, quels sont tes projets pour l'avenir, Alex ?
Oui, voici mes projets pour l'avenir. On a la possibilité de rajouter un étage, un toit en plus en mousse, ce qui ferait une cabane à 2 étages. Et on a la possibilité de créer un système d'eau potable.
De mon côté, on aime bien être primitif. Mais les potes avec qui on fait ça ont chacun des compétences particulières. On a des S qui, pour leur TPE, ont fait un filtre à eau, des électrotechs qui construisent des mini-éoliennes. À terme, on va construire des sanitaires, amener l'eau potable, la nourriture, dormir dans un dortoir chauffé et recharger nos outils à l'aide du vent. Aujourd'hui, ce n'est qu'une cabane. Mais demain, et sans investissement, c'est un complexe immobilier entièrement meublé avec nourriture, dortoir, électricité, sanitaire et eau potable. Bref, on s'amuse, mais même dans la gaminerie, on peut être sérieux. Comme quoi, à mon sens, devenir adulte, c'est peut-être assumer de s'amuser et s'épanouir dans le sérieux qu'on y apporte. Finalement, puisqu'on devient adulte, est-ce qu'on changerait pas de regard sur le monde ?
Merci les garçons, c'est quand que vous nous faites une cabane pour le Chap Time ?
Quand vous voulez, mais il nous faudra un peu de temps, parce que ça prend du temps quand même.
Beaucoup de temps.
Alors on va savoir si Inès construit des cabanes pendant ton temps libre ?
J'ai arrêté, hein. Je t'avoue que j'ai arrêté. Il n'y a plus le temps.
Eh ben oui, j'imagine.
Bon bah du coup moi j'ai plombé ambiance. J'ai parlé du logement social. Alors changer son regard sur le monde, un thème vaste mais passionnant. C'est sous le spectre de l'architecture que je vais aborder ce sujet. Nous sommes entourés d'édifices aux allures si distinctes. Où que l'on aille, l'architecture est là, et nous en parlons si peu. En pierre, bois, paille ou béton, les bâtiments nous font vivre des émotions si différentes. Mais j'aimerais me concentrer sur les cités. Ces immeubles immenses et remplis de vie. Si je pose mon regard sur ces bâtiments, c'est pour mieux les comprendre. Pour mieux comprendre pourquoi ces foyers censés être réconfortants pour leurs habitants sont devenus vecteurs d'inégalités. En France, les cités sont au cœur de bien des débats. Rien que ce mot « cité » est presque devenu un gros mot. Ce lieu de vie est perçu comme effrayant par une bonne partie de la population. Tous les mots sont bons pour le décrire. Zone de non-droit, cité poubelle, cage à lapins. Rien de bien gai. Et pourtant, ces constructions ont répondu à un besoin après-guerre. Elles ont ravi certains qui y ont trouvé le confort. Elles ont aussi accueilli des ouvriers venus de pays voisins pour qu'ils s'y installent décemment avec leur famille. J'entends encore mon grand-oncle évoquer cet appartement si moderne qu'il a trouvé en quittant l'Espagne. À son époque, les catégories sociales se côtoyaient, les cultures aussi. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, et je vais citer le nom d'un film, ce sont des misérables qui s'y côtoient. Des laissés pour compte, entassés dans des cités toujours plus hautes, dont l'État laisse largement à désirer. J'entends misérables au sens de leurs conditions de vie. Du moins dans les grandes villes. La cité Fontanille semble bien paisible en comparaison aux foyers marseillais et parisiens, je le conçois. Le Corbusier, alias Charles-Édouard Jeanneret-Gris, un architecte franco-suisse, a lui dessiné une cité idéale. Il a créé la Maison Radieuse en 1952 à Rezé, nommée plus couramment Cité Radieuse. Si celle de Marseille est plus connue, celle de Rezé avait une vraie vocation sociale, à une époque où il fallait tout reconstruire. En bref, il a souhaité créer des villages en hauteur, avec une surface habitable adaptée à l'humain. Autour, il a imaginé une vraie vie de proximité avec des commerces, hôtels, boulangeries. Rez semble donc être un rêve, et d'après les habitants, plutôt aisés aujourd'hui, ça a fonctionné. Un article m'a interpellé récemment, il répondait à cette interrogation. Le Corbusier avait-il la recette des HLM qui rendent heureux ? Il semblerait qu'en cours de route, l'idée de réunir les hommes se soit perdue. Oui, ce projet architectural répondait à un besoin social. Le Corbusier avait pour objectif de construire une vie miniature au cœur des villes, de créer du lien entre différents individus. Là où il a réussi, d'autres ont lamentablement échoué. Les constructions qui ont suivi n'ont pas respecté un espace habitable décent. Les étages se sont démultipliés, tout comme la colère des habitants. Les banlieues rassemblent des populations aux problématiques sociales similaires. Écrasées sous la hauteur de leurs immeubles, elles se sentent oppressées, ont du mal à entrevoir le soleil. Dur d'avoir de l'espoir quand la violence est environnante, quand la société nous associe à notre lieu de vie. En plus de vivre comme en cage, ils sont coincés dans une case incompatible avec le reste de la société, une case difficile à faire oublier lorsque l'on recherche un travail. On pourra en dire plus, mais je m'arrête ici. Si je devais avoir un regard sur l'avenir du logement social, j'imagine que je ne les rassemblerais pas tous en un même lieu, que je cesserais de construire haut et étroit au profit d'espaces plus mixtes. Il est urgent de poser plus qu'un regard sur nos banlieusards.
Merci Inès, merci beaucoup pour cette chronique. Erine, tu voulais intervenir ?
Je voulais dire que avec les deux classes de terminale ES, on avait été voir Les Misérables dernièrement au cinéma et je voulais rajouter que c'était un très bon film et très très beau à voir et voilà.
Et on vous invite à aller le voir.
Ouais. Et on vous invite à aller le voir.
Et comme dirait Erine, et voilà. Et voilà la musique. Allez Maya Luna, c'est à vous.
Much I care when you put your arms around me. I get a fever that's so hard to bear.
You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night.
Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago.
They gave us fever when we kiss us, fever with their flamingos. Fever, I'm a fire, fever, yeah, I burn for those.
Now you listen to my story, hear the point that I have made. Chicks were born to give you fever, Fahrenheit or centigrade.
They give you fever when you kiss them, fever if you leave alone. Fever till you sizzle, what a lovely way to burn.
What a lovely way to burn.
What a lovely way to burn.
Merci beaucoup à toutes les deux, restez là, il reste deux chroniques et on clôturera avec un nouveau morceau. Alors on va terminer cette émission par une chronique, enfin deux chroniques un peu spécifiques, car le thème c'est changer son regard sur le monde par des croyances parallèles. Alors on va garder bien au chaud Valérie qui nous a préparé un gros sujet paraît-il, et je vais vous laisser la parole à tous les deux, Erin et Justin, c'est parti.
Et oui, on va changer notre regard sur le monde, alors est-ce que vous êtes prêts?
Ouais, moi, carrément. D'ailleurs, t'as lu ton horoscope?
Moi, je l'ai lu. Et ce que j'ai à dire, c'est que je vais bientôt gagner de l'argent.
Non. Mais tu crois vraiment à ces bêtises, toi?
Ben ouais, pourquoi? T'insinues que l'astrologie, c'est des bêtises? Je te rappelle que l'horoscope, c'est trouvé par des personnes qualifiées.
Qualifiées? Tu connais des études en astrologie?
Non, mais j'ai fait quelques recherches. Et... l'astrologie, c'est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur le mouvement des planètes et du système solaire. De nos jours, l'astrologie est considérée comme une croyance supposée comme scientifique. Or, l'ensemble des recherches menées depuis l'Antiquité ont révélé que l'astrologie se place en dehors du domaine rationnel ou scientifique.
Ah ouais, donc si je comprends bien, l'astrologie c'est par rapport aux planètes, mais l'horoscope c'est par rapport à quoi du coup ?
L'horoscope c'est l'un des aspects les plus répandu de l'astrologie. Il est composé des 12 signes du zodiaque.
Hey, moi, j'en connais quelques-uns. Alors, je connais déjà le taureau, comme moi. Ensuite, il y a le bélier, le verseau.
Enfin bref, ils sont présents au quotidien dans de nombreux magazines, des revues, etc., dans lesquels on peut consulter chaque jour son signe et voir quelles sont les prédilections qu'on lui a faites pour la journée. Mais en même temps, l'horoscope se répand et sa crédibilité prend un coup. Beaucoup d'astrologues pensent même qu'il porte atteinte au sérieux de l'astrologie.
Mais du coup, l'horoscope, ça sert à quoi ? Enfin, qu'est-ce que ça nous apprend ?
Mais selon ses adeptes, l'astrologie permet non seulement de dévoiler les caractères et la personnalité, mais aussi de faire des prédictions concernant l'avenir d'une personne donnée, mais de façon générale.
Ah, d'accord. Mais par rapport à changer notre regard sur le monde ? Parce que là, qu'est-ce que ça nous apprend de plus ?
Mais cette pratique, ça permet d'aider les gens à se projeter dans l'avenir et à maîtriser un temps qui leur apparaît comme rempli d'incertitudes. Donc, ça permet de changer leur regard sur leur avenir.
Merci.
Eh oui, chère Valérie, hein, on croit à l'horoscope en étant au lycée. Ça t'embouche un coin.
Oui, ça m'embouche un coin, mais on y croit, sauf si on est cartésien, logicienne, rationnel, athéiste, incrédule ou agnostique, comme moi. Enfin, ça, c'est des mots qui ont caractérisé ma vie pendant presque 4 décennies. Je suis un poil plus vieille que vous. Mais légèrement. À peine. Mais moi, de savoir, par exemple, je suis coq en astrologie chinoise, cancer en astrologie nostradamusienne, je ne sais pas si ça se dit. Donc, ça voudrait dire que quoi, si je m'en tiens à ça, je devrais être quelqu'un de cartésien, de persévérante, de courageuse, d'acharnée. Moi, donc la flegme n'a d'égal que ma procrastination. Donc non, je ne crois pas. Enfin, je ne croyais pas dans les horoscopes et ce genre de choses. Toutefois, vu que nous avons le même sujet, il faut savoir qu'un jour, en travaillant sur un sujet qui était la culture lusophone au Portugal, j'entends le mot bruxeria. Alors forcément, en tant que cartésienne, etc., etc., je prends mon dictionnaire et je vois le mot sorcellerie. Alors là, je ris, sorcellerie, moi la cartésienne. Mais je vais un peu plus loin. Et là, je commence à lire quelques thèses au sujet de la bruxeria, de cette fameuse sorcellerie. Et puis deux thèses en mémoire universitaire, je me fais heurter de plein fouet par des mots comme rituel, magie, candomblé, cosmologie, chamanisme, yoruba, rite, vaudou, religion. Et il y a parmi eux un auteur qui m'a mis définitivement le trouble. Et le trouble qui, en moi, m'a fait complètement changer mon regard sur ces croyances parallèles. Il s'agit de Miguel Montenegro, qui, dans sa thèse, a parlé des bruxes, les thérapeutes traditionnels et leur clientèle au Portugal. En fait, le bruxe, c'est la personne qu'on va aller consulter, une sorte de thérapeute de l'esprit, mais qui va n'être pas considéré comme thérapeute au sens scientifique du terme, ni comme personnage religieux au sens de l'Église catholique qui est très présente au Portugal. Donc ce bruxe, on va le consulter par exemple si on n'arrive plus à dormir parce qu'on sent qu'on est tourmenté. Et le plus souvent, les consultations que font les bruxes, ils vont se mettre en relation avec une personne qui va être incoste, qui va être possédée par un esprit. Mais ces esprits-là, ça va être des esprits qui vont posséder ces gens pour soit par exemple une promesse qui n'aurait pas été tenue. Par exemple, Ludo, je te rappelle que tu ne m'as toujours pas payé les piges que j'ai fait à la radio depuis tout 2019. S'il m'arrivait malheur à moi, il se pourrait que mon esprit aille te posséder jusqu'au temps que tu règles tes dettes envers moi. Une promesse non tenue, des choses comme ça. Alors moi, sur le moment, j'en ai beaucoup rigolé et en fait, en discutant avec tous les gens lusophones, enfin principalement du Portugal, tout le monde connaît la bruxeria, tout le monde connaît les bruxes, sauf que dès qu'on pose plus de questions, c'est silence total. C'est un monde qui est très opaque, qui est très fermé, on trouve très peu d'écrits à ce sujet. Et c'est un monde totalement mystérieux, moi, qui me fascine, d'autant plus qu'il est complètement opaque. Et aujourd'hui, ben, en fait, mon regard sur le monde a changé grâce à cette rencontre. Par contre, il y a encore une chose auquel je ne crois pas, c'est au gros barbu donc, du 25 décembre. Donc, Ludo, si au pied du sapin, tu pouvais me payer le règlement des piges de 2019, j'en serais ravie.
Merci, on va essayer. Après, tu me hantes déjà, donc il n'y aura pas vraiment
de
changement.
Oui, mais c'est à cause des dettes que tu dois.
Ah, d'accord, ok. Sers-toi une pizza, c'est moi qui régale.
C'est gentil.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à Gérald Guillem qui est là, hein, qui suit cet atelier radio tous les mercredis. On vous retrouvera pour Chaptime bientôt, hein, en 2020 pour une nouvelle émission qu'on enregistrera à la radio. L'Happy Hour, ben, ça dépend quand Léa aura retrouvé sa voix, hein, peut-être dans une semaine, dans deux semaines, peut-être jamais. Peut-être que tu vas te faire hanter par une bruxe. C'est peut-être d'ailleurs une bruxe qui l'a hanté et qui lui a enlevé sa voix. C'est possible, ça?
Je sais où on peut trouver des bruxeries maintenant.
D'accord, bon, on va aller voir. Merci à tous, cette quinzaine des arts. On se quitte avec un dernier morceau de Luna et Maya et on se retrouve bientôt. Ciao!
If I needed you, needed you, needed you, needed you, needed you, would you come to me? For to ease my pain, my pain, my pain, my pain, my pain. In me, I would come to you. I would swim the seas. I would swim the seas. Well, the night for long and the morning shine of love and you'll miss sunrise, 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 sunrise. And that would break my heart in two. Lady, with me now, since I showed how to lay a lily hands in.
and who would not agree? She's a sight to see and a treasure for the poor to find. If I needed you, needed you, needed you, needed you, needed you, would you come to me for to ease my pain, my pain, my pain? If you needed me, I would come to you. I would swim the seas for to ease your pain.